suis bien. Et j'ai pas besoin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment passé un très très bon moment dans la louange, dans la présence du Seigneur. J'espère que vous aussi. Avant de commencer le message de ce matin, je vais juste faire une annonce aussi. C'est pour vous dire qu'à partir du mois prochain, du mois d'octobre, après le week-end de rentrée, pas le premier, mais les dimanches qui suivent, et jusqu'à peu près au mois de janvier, on va se plonger dans le livre de Josué. Voilà. Donc si vous voulez anticiper, lire, relire, c'est un livre un petit peu long, mais pas très long. Donc on peut... Ah, ça a coupé. Voilà. On peut le lire, le relire facilement. C'est un super livre et on va aller piocher les trésors qui sont dedans. Et ce matin, j'ai eu à cœur de faire un peu comme une... pas une introduction à ce livre, mais de voir un peu ce qui s'est passé avant. Et donc on va ouvrir la Bible en Deutéronome 34, qui est le texte qui arrive avant Josué. Et plutôt que de dérouler le texte ce matin, verset par verset, eh bien on va se centrer sur une idée centrale dans le texte, et puis faire des allers-retours sur les autres parties du texte ce matin. Alors on ne le fait pas souvent, je crois que Cathy l'a fait une fois, et je voudrais juste vous demander de vous lever pendant la lecture du texte. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible. Parfois on le lit sur la va-vite, parce qu'on n'a pas le temps, et qu'il faut. Parfois on le lit d'une manière avachie sur son canapé. Mais ce matin, je voudrais juste qu'on se rappelle que ce qu'on lit là, c'est la parole de Dieu. Et il ne devrait y avoir rien de plus sérieux dans notre vie que la parole de Dieu. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm, de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, c'est la mer Méditerranée. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Excusez-moi si je pleure. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Père, merci pour ta parole et nous te prions ce matin qu'elle transforme nos cœurs et qu'elle transforme nos vies. Nous voulons l'entendre, nous voulons l'écouter attentivement et nous voulons lui obéir. Que ta grâce nous ouvre les yeux ce matin. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Pardon, je me suis baissé, il ne fallait pas. Comment je fais ? Désolé pour l'enregistrement. J'ai mis un titre ce matin. Seigneur, où est ta grâce ? Où est ta grâce ? Tu peux montrer la carte, s'il te plaît ? Voilà, c'est juste pour avoir un petit aperçu quand vous allez vous plonger dans le livre de Josué, parce que c'est le partage des territoires. Et voilà, le nord, Asher, Neftali, Zébulon, oui désolé, c'est en anglais, mais je pense que c'est assez facile de repérer. Manassé, Éphraïm, Dan, Benjamin, Juda, Siméon au milieu de Juda. Et vous voyez un petit trait là, avec la mer morte, et ça, c'est le Jourdain. Et vous allez voir que dans le livre de Josué, ça a une importance. Et il y a ceux qui sont d'un côté du Jourdain, et puis il y a ceux qui sont restés de l'autre côté du Jourdain. Et parmi eux, Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé. J'ai pas le laser, mais Moïse va être par là. D'accord ? Dans ce passage, il est par là, face à Jéricho, en train d'observer le territoire que Dieu avait promis. C'est bon. Vous pouvez retrouver ce genre de carte sur Internet, bien sûr, ou taper sur Google. Et c'est important de visualiser. Quand on est dans ces textes un peu descriptifs où on détaille ce genre de choses, je ne pense pas en avoir besoin. Mais... c'est important de visualiser un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit, de quoi il est parlé. On en parlera quand on sera dans le livre de Josué. Notamment, là, ce qu'on voit, c'est que le découpage du territoire est loin d'être le même pour tout le monde. D'accord ? Et ceux qui sont avant le Jourdain ou qui ont franchi le Jourdain, et puis dans la quantité des territoires aussi, c'est différent. Et donc la mer, là, c'est la mer Méditerranée qui est appelée la mer occidentale. Ok. J'avais mis une deuxième carte, mais c'est pas la peine de trop s'y arrêter, c'est juste pour montrer le chemin qu'avait parcouru Israël. Et Beth Peor, dont il est parlé dans le texte, voilà, c'est là-haut. Et ce matin, je voudrais qu'on commence par s'arrêter sur la fin du verset 4. C'est ce verset qui m'a ému. Et il est dit, Dieu dit à Moïse, « Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » J'espère que ça vous remue, parce que waouh, quelle parole du Seigneur. Et je pense que c'est une parole effrayante, voire terrassante. Nous suivons la vie trépidante de Moïse, le personnage principal depuis le livre de l'Exode. On traverse le Lévitique, le livre des Nombres et tout le livre du Deutéronome. Est-ce que vous vous rendez compte? La plus grosse partie de la Torah. Et nous arrivons à la conclusion de cette aventure incroyable qu'a vécu Moïse. Et la conclusion de la Torah, du Pentateuque, c'est pas de happy end. peut-être que l'écrivain biblique aurait dû faire Hollywood avant. Peut-être pas. La grille tombe devant Moïse, devant le personnage dont il est dit le plus humble de l'histoire. Celui qui a vu Dieu, celui qui a conduit pendant 40 ans le peuple hors d'Égypte et dans le désert au travers de miracles extraordinaires. Celui qui a reçu les tables de la loi, je nous rafraîchis la mémoire un peu. Celui qui a construit le tabernacle pour accueillir la présence de Dieu. Celui qui est à l'origine de l'écriture même, de ces textes fondateurs de notre foi, de ces cinq premiers livres. Et qu'est-ce que Dieu lui dit en conclusion ? Tu n'y entreras point. Tu n'entreras point dans le pays promis. Quelle sentence, quel jugement de la part de Dieu. Et pourquoi ? Vous savez ? Parce que Moïse voulait obtenir de l'eau pour le peuple. Et pour cela, il a frappé le rocher. Sauf que Dieu lui avait demandé autre chose. Il lui avait demandé de lui parler. Vous retrouvez cette histoire dans Nombre 20, versets 7 à 13. On ne va pas le lire ce matin, mais c'est cette histoire où Dieu demande à Moïse de parler au rocher et Moïse va le frapper. Le peuple était sûrement encore en train de râler après Dieu. Est-ce qu'on se reconnaît parfois là-dedans ? Et après Moïse, les responsables, pour avoir de l'eau, on est dans le désert. Et Moïse, écoutant à moitié ce que Dieu dit, il frappa un rocher avec le bâton, le fameux bâton d'Aaron. On peut penser que Moïse, irrité par le peuple, n'a fait simplement que reproduire ce que Dieu lui avait déjà demandé. Oui, parce qu'en Exode 17, au verset 5 et 6, Dieu lui demande de prendre le bâton et de frapper le rocher. Mais en Nombre 20, Dieu lui demande de parler au rocher et non pas de le frapper à nouveau. Moïse est puni du fait de sa désobéissance. Est-ce que cet événement nous laisse un sentiment de crainte vis-à-vis de Dieu ? Oui. Et vous savez quoi ? C'est bon. C'est bon de craindre l'Éternel. Jésus lui-même, en Luc 12, a dit « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Et donc ce matin, je voudrais nous encourager. Ne combattons pas ce sentiment de crainte de l'Éternel dans nos vies. Ne cherchons pas à le combattre. C'est bon de craindre l'Éternel. Nous devons le craindre afin d'être sages, la Bible nous dit, et de nous tenir éloignés du péché. Ce qui va te tenir éloigné du péché, oui, c'est la grâce de Dieu, mais c'est avec et mélangé à la crainte de l'Éternel. C'est vraiment important. Et on vit dans une société où on veut mettre absolument ça de côté. Non. La Bible te dit, crains l'Éternel. Quand tu pèches, crains l'Éternel. Ne te trouve pas d'excuses parce que Dieu ne t'en trouve pas. Crains l'Éternel. Et laisse ça dans ton cœur. Laisse ça dans ton cœur. Mais toutefois, en gardant cette crainte face à la sainteté de Dieu, on va essayer ce matin de voir d'autres raisons à cette déclaration de Dieu. Tu n'entreras point dans le pays promis. Alors pour commencer, on va retourner sur ce fait que Moïse a frappé le rocher. Et on va lire 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, excusez-moi, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu dans le désert. Et qu'ils ont, car ils buvaient où ? À un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ce rocher sur lequel Moïse a frappé représentait Christ. Et Dieu ne permet pas que l'on frappe deux fois Jésus. Le rocher a été frappé une première fois et Dieu a frappé Jésus, mais pas une deuxième fois. Il a été frappé, Hébreux 10 nous dit, Hébreux 10, 10, il a été frappé une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Sa mort, une seule fois, a suffi à libérer les fleuves d'eau vive qui nous conduisent dans la promesse de la vie éternelle. Et je crois que c'est un avertissement que Dieu nous donne à tous. Il n'est pas possible de frapper une deuxième fois le Fils de Dieu. Celui qui essaiera sera puni du châtiment le plus redoutable, la mort éternelle dans l'étang de feu. Dieu a donc utilisé Moïse dès cette époque-là pour montrer la voie du salut. Une fois que le Fils a été frappé à mort, l'eau a jailli. En Jean 14, 4, Jésus nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, encore cette eau qui sort du rocher qu'est Jésus, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà pourquoi Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Il nous faut désormais parler au rocher, à Jésus, lui confesser notre péché, invoquer son nom, nom seul par lequel nous puissions être sauvés. Notre mission en tant qu'Église de Christ, c'est de supplier le monde d'embrasser Jésus et de lui parler, au lieu de vouloir l'attaquer ou le frapper. Pourquoi ? Parce que ce même rideau qui est tombé devant Moïse, un jour, il tombera sur toute la terre. Jésus paraîtra dans le ciel et il éloignera de son royaume tous ceux qui n'auront pas parlé avec le Fils de Dieu. Et cette fois-ci, il ne restera plus de place sur terre pour les ennemis de Jésus. Ils seront envoyés dans la géhenne, Et la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Père, je prie que ce matin, tu nous rendes encore plus conscients de l'importance d'annoncer Jésus au monde, de l'importance que le monde parle avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Moïse ne devait pas frapper le rocher deux fois. Deuxième raison, Moïse n'était pas celui qui pouvait à la fois libérer de l'esclavage et faire entrer le peuple dans la promesse. Ça va ? Il n'était pas celui qui pouvait sortir le peuple d'Égypte et à la fois faire rentrer dans la promesse. Pourquoi Dieu utilise un autre qui va s'appeler Josué. Moïse n'est pas celui tant attendu. Et tout au long de la Bible, on est là. C'est lui ? Non. C'est lui ? Non. Abraham ? Non. Isaac ? Ah non. Jacob ? Et non. Moïse ? Joseph ? Non. Moïse ? Eh bien non. Et même ça continue après. David ? Non. Salomon ? C'est pas encore lui. Et on a cette attente dans tout l'Ancien Testament. Quand est-ce qu'il vient ? Moïse n'est pas le Messie. Il a eu un grand rôle, mais son rôle était quand même limité. Les différents rôles de Christ ne pouvaient pas être portés par un seul homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on voit en 1 Samuel 13, Dieu juger Samuel, le roi Saül. Saül est paniqué, il est en pleine bataille, Samuel était en train de faire on ne sait trop quoi, et de panique, il va offrir un holocauste. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant cela ? Il prend la place du prêtre, alors qu'il est roi. Et Dieu a dit non. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un seul qui est à la fois prophète, roi et prêtre. Et ce seul homme, c'est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ. Moïse était un très grand prophète. Au verset 10 du texte qu'on a lu, il est dit « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. » Waouh ! Que l'Éternel connaissait face à face. Mais Moïse est en train de nous annoncer quoi ? Qu'il y en a un autre. Il y en a un autre qui arrive et il est encore plus grand que moi. Voilà ce que Moïse nous dit. Celui qui vient est bien plus grand que moi. Troisième raison, je voulais partager avec vous ce matin, c'est que Moïse est identifié au peuple qui périt, faute de foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ben, ça veut dire que Moïse, ici à ce moment précis de l'histoire, il endosse le rôle de ce qu'on appelle en théologie un type de Christ, une typologie de Christ. Le peuple qui est parti d'Égypte, pour sa grande majorité, est mort dans le désert. Ça veut dire quoi ? En dehors du pays promis. Moïse, à la ressemblance de Jésus, est identifié au peuple qui pêche, pécheur face à Dieu, et qui marche sans la foi et qui meurt en dehors du pays promis. Jésus lui-même a été conduit hors de Jérusalem, en dehors du temple, sur le mont Golgotha, pour mourir en portant le péché de son peuple et son peuple qui réunit juifs et païens. Moïse annonce donc ici, par cette mort en dehors d'eux, que c'est par la mort du Messie que nous entrons dans le royaume de Dieu. Amen. Une petite conclusion à cette première partie. Suis-je prêt à m'effacer dans ma vie pour laisser place à Jésus? Est-ce que je vis ma vie sans courir après ce happy end qu'on veut nous faire avaler de tous les côtés aujourd'hui? Est-ce que je vis ma vie sans rechercher une quelconque gloire qui ne serait pas donnée à Jésus-Christ lui-même, mon Sauveur? Le texte nous dit de Moïse, versets 10 à 12, « Donc il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit. » Moïse avait toutes les raisons de réclamer son salaire, de réclamer son dû, pour que sa vie se finisse bien aux yeux du monde. Mais à ce stade de sa relation avec Dieu, une relation si étroite que le texte nous dit qu'il est face à face avec Dieu. À ce stade, Moïse accepte pleinement ce que Dieu lui donne. Voir la promesse, puis s'effacer pour laisser place à Christ. Jean le Baptiste déclarera en Jean 3, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Précisément au moment où Jésus prenait sa place, entrait dans son ministère. L'apôtre Paul dira aussi en Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul avait compris qu'à un moment donné, je m'efface parce que c'est lui qu'il faut regarder. Avons-nous appris, comme Moïse, à nous effacer quand Jésus veut utiliser sa vie, notre vie pour se glorifier? Mais où est la grâce de Dieu? Et on va finir avec cela. Où est la grâce de Dieu dans ce texte? Je pense qu'on en a déjà eu un aperçu. La première chose, Dieu permet à Moïse de voir la promesse, mais pas que, d'en attendre une encore plus grande. Dieu permet à Moïse de voir que Dieu est fidèle et que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Waouh. La promesse faite à Abraham va s'accomplir. Israël va bel et bien rentrer dans le pays de la promesse. Tout au long de la Bible, il y a une promesse encore plus grande qu'un morceau de terre au Moyen-Orient. C'est la promesse du Messie qui est en route, la promesse du Fils de Dieu qui va venir, qui va devenir chair et sauver de la mort. Cette promesse se perçoit dans toute la Bible. Dieu permet à Moïse d'entrevoir que le Sauveur de l'humanité est en chemin. C'est lui qui va faire entrer le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu. Pour appuyer cela, Dieu montre à Moïse que c'est Josué qui va conduire le peuple. Et Josué en hébreu, sous le regard de Joël, c'est très proche du nom de Jésus. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé la différence. C'est quoi, c'est des accents ou... Il y a un vav. c'est très très proche. Et cela signifie l'Éternel est salut. Amen. Waouh, quelle grâce Dieu a fait à Moïse. Comme avec Jean le Baptiste, dont d'ailleurs le Nouveau Testament dit aussi qu'il est le plus grand des prophètes, ah, comme Moïse, Moïse est le plus grand des prophètes. Il voit et il laisse Josué, le représentant de Jésus, conduire le peuple dans la promesse. Waouh ! Est-ce qu'on se rend compte de la grâce qui est faite là ? Moïse a vu ce qui allait arriver des siècles après. De la même manière qu'il est dit en Jean 3 que Jean le Baptiste éprouva une immense joie à la vue de Jésus qui entrait dans son ministère, je crois que Moïse a aussi éprouvé une grande joie de voir Josué entrer dans son ministère alors que lui-même s'était effacé et s'en allait vers Dieu. Et ça, c'est une énorme grâce. Deuxième point, on en a un petit peu parlé. Dieu permet à Moïse, pardon, de s'effacer pour glorifier Jésus. Et en soi, c'est une grâce. La Bible nous dit que Dieu ne permet pas que quelqu'un d'autre soit glorifié à sa place. Le seul qui partage la gloire de Dieu, c'est Dieu. C'est le Fils. Le diable a essayé de voler cette gloire, mais c'est l'étang de feu qui l'attend, et non la gloire. C'est donc une grâce immense que de pouvoir plier le genou devant Dieu et d'être capable de lui rendre gloire à lui seul, pas à moi, à lui seul. Dieu a fait grâce à Moïse en lui permettant de s'effacer, en lui permettant de renoncer à lui-même, en lui permettant de perdre sa gloire humaine pour laisser place à la gloire de Christ. Waouh! Waouh! Il s'en passe des choses quand Dieu intervient. Et le dernier point, c'est que Moïse en Christ, au final, a accès à toutes les promesses de Dieu. Alors, peut-être que si on s'arrête à Deutéronome 34, on ne voit pas, on ne comprend pas. Mais en fait, Jésus l'a attrapé et l'a mis en lui. Et il est venu ce jour où Moïse a mis le pied sur la terre de Canaan. Pas seulement aux côtés de Josué, mais aux côtés de Jésus-Christ lui-même, le Dieu sauveur. Vous avez ce texte en Matthieu 17. Moïse a été placé en Christ. Et qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux nous dit ? C'est qu'il nous attendait. Hébreux 11, verset 39. Tout cela, c'est les héros de la foi qui n'ont pas obtenu la promesse, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi ? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. En Christ, toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Et là où on pourrait y voir quelque chose de dur, en fait, il y a une bénédiction immensément plus grande derrière. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ bien sûr, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Moïse a été placé en Christ. Il a donc désormais accès à toutes les promesses de Dieu. De même, si nous appartenons à Jésus ce matin, il nous a placés en lui. Et nous avons accès à toutes les promesses de Dieu. Paul dira, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons accès au trône de la grâce devant lequel nous pouvons nous approcher avec assurance. En conclusion, et après on priera, Moïse nous invite à devenir de grands prophètes, ou selon le langage du Nouveau Testament, de grands témoins, qui n'ont pas peur d'aller même dans les déserts, qui s'attendent à ce que Dieu se manifeste par des signes et des prodiges, ou simplement qui s'attendent à ce que Dieu nous donne notre pain quotidien, chaque jour. Je crois que nous sommes invités ce matin à vivre notre vie chrétienne à fond, en ne restant pas à l'arrière pour regarder ce qu'il se passe. Nous sommes invités à sortir de chez nous, à prendre des risques, à tenter des projets qui ont pour but de ne pas laisser le monde qui nous entoure périr dans son péché. Nous sommes appelés à œuvrer pour le royaume de Dieu tant qu'il est encore possible d'y entrer. Et alors que nous vivons nos vies à 200% pour Jésus, soyons toujours prêts dans nos cœurs à nous effacer, à nous mettre de côté, pour laisser place au roi des rois, à celui qui est digne d'honneur et de louange, à celui à qui la gloire éternelle est réservée. Bisous Marie. Laissons toujours la place d'honneur à notre bien-aimé Jésus, celui qui est assis sur le trône céleste à la droite du Dieu Tout-Puissant. J'ai pris ce dernier verset de Paul. J'ai travaillé plus que tous. Vous l'avez dit ça déjà ? Regardons-nous les uns les autres. Est-ce qu'on peut dire ça ? Vous sentez le zèle de Paul ? J'ai travaillé plus que tous. Et pourtant, c'est là où la Bible nous amène. Être passionné pour les œuvres du royaume. Non pas moi toutefois, au fait, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Peut-être ce matin, je finirai en disant ça, tu es dans une situation où tu as du mal à voir la grâce de Dieu dans ta vie, ou même à la comprendre. Et ce que je veux t'inviter ce matin, fais confiance. Fais confiance en Dieu, fais confiance en sa grâce, en sa bénédiction. Sa main est sur toi. Et même si on ne comprend pas tout au moment où on traverse des épreuves, Dieu, lui, il sait ce qu'il fait et il sait où il nous amène. Amen.